plus grand que celui des autres. La force, la vraie force, vient de l'intérieur, d'un point de communion et de communication avec l'âme. Et cette force-là, un être très petit, qui semble être soumis au vent de la vie et aux caprices de tout le monde dans la ville, cette force-là peut soudain jaillir dans cet être. Et il va pouvoir faire, si petit soit-il, il va pouvoir faire des choses extraordinaires, des choses qui vont le dépasser. Est-ce qu'il va être transformé? Non, il n'est pas transformé non plus. Si vous êtes nanti d'un caractère que vous jugez faible, il ne faut pas, par la communication avec l'âme, penser que l'âme va changer votre caractère en vous rendant fort, en vous donnant un caractère de fort. Non, absolument pas. Vous ne changez pas. Vous êtes enfin et finalement vous-même. Si vous espérez que l'âme va vous rendre fort, étant donné que vous vous positionnez là dans le monde de la dualité, qui dit force un jour, dit aussi faiblesse le lendemain. C'est inévitable, car la vie est un grand mouvement de balancier qui balance sans cesse dans les contraires. Les événements vous portent en haut et soudain ils vous descendent en bas. Pareil avec vos humeurs, avec votre caractère, avec l'estime que vous avez de vous-même et avec les résistances que vous avez en vous-même. Pour donc être une force et bénéficier de cette force constamment, même à l'instant où vous sentez que vous tombez, que vous êtes encore accablé par votre faiblesse ou par votre complexe ou par votre traumatisme ou par votre manque de confiance, sitôt que vous sombrez, il faut donc tout de suite vous repositionner dans l'âme. Et c'est très facile à faire. Il n'est pas besoin pour cela d'être un grand initié, d'être l'ami intime d'un grand maître, de le rencontrer chaque samedi, ou d'aller tous les jours faire une messe, ou d'être des heures en méditation. La puissance de l'âme, la communication avec l'âme est accessible à tous, à des degrés fort différents bien sûr, mais est accessible à tous. Donc pour tout le monde, l'équilibre, car c'est de cela dont il s'agit quand je parle de force, l'équilibre entre ces deux opposés, que sont le positif et le négatif, cet équilibre va être obtenu lorsque vous allez vous positionner en l'âme. Pour vous positionner concrètement en l'âme, à part la méditation, qui vous propose de pénétrer en plus dans l'âme, il vous suffit simplement de respirer. Lorsque quelque chose dont vous désaxe et vous porte soit dans l'extrême positif, comme lorsque vous êtes dans l'euphorie, ou lorsque cela vous porte dans l'extrême négatif, comme lorsque vous êtes dans le malheur. Là, il y a un point intéressant à relever. Lorsque les hommes sont dans l'euphorie, ils ne pensent pas que cela peut être une illusion. Dès qu'ils sont dans le malheur, ils cherchent tous les moyens d'en sortir, car c'est très désagréable. Là, ils savent qu'ils n'ont rien à y faire, qu'ils ne veulent surtout pas y rester. Alors là, oui, ils se disent, bien, peut-être si je faisais un alignement avec l'âme, ce serait bien. Peut-être si je priais, ça m'aiderait. Peut-être que si je donnais un peu d'amour, ça m'aiderait aussi. Mais quand l'individu est dans l'euphorie, dans le bonheur, il ne lui vient pas à l'idée de revenir au centre. Car les individus d'évolution moyenne se trouve bien dans le rire, se trouve bien dans l'euphorie, se trouve bien dans ce sentiment de bonheur que permet la matière. Alors l'individu y reste. Il ne se dit pas « je dois quitter cette zone d'illusion ». Il ne se rend pas compte si cette zone est une illusion, car il s'y sent tellement bien. Et pourtant, pour le véritable disciple, pour le véritable méditant, pour celui qui veut atteindre une véritable liberté spirituelle, connaître un véritable envol de l'âme, le rire est tout autant à combattre que les larmes. Ce qui ne veut pas dire que dès demain, vous devez afficher partout dans les rues, dans votre travail, dans votre maison, des têtes d'enterrement, comme vous dites. en pensant que vous cultivez par là même le détachement vis-à-vis du rire, et que donc vous vous préparez la voie royale pour la libération spirituelle. Je dis simplement que vous devez apprendre à concevoir ces deux pôles tels qu'ils sont. Vous n'avez pas à vous départager du rire. Non, riez quand vous avez envie de rire. Riez quand vous voulez aussi faire plaisir et plaire aux autres et rire avec eux. Partagez donc ce moment de vie avec eux. Mais sachez au fond de vous-même que le rire étant une autre version des larmes, le rire ne va donc pas être constant ni éternel, et qu'il ne faut pas vouloir une vie de rire et une vie de bonheur, car c'est illusoire que de demander cela à la vie. Car la vie est faite, comme vous pouvez le dire vous-même, la vie est faite de rire et de pleurs. Mais cela n'est pas la faute à la vie, la faute à la constitution de la vie. Sur une route, il y a des virages et des lignes droites. Ce n'est pas la faute de la route. C'est le relief qui est comme ça. S'il y a une faute, bien que je ne veuille accuser personne, ni culpabiliser qui que ce soit, mais s'il y a une certaine erreur d'interprétation, c'est à l'intérieur de vous-même. Quand vous voulez penser ou quand vous voulez décréter que la vie, la bonne vie, c'est la vie qui fait rire, c'est la vie où on est heureux. Et la mauvaise vie, c'est la vie qui fait pleurer, la vie où on est malheureux. Le problème que vous avez donc à régler, ce n'est pas un problème avec la vie, cette vie qui vous promène, qui vous balade, qui vous emmène du rire aux larmes. Le problème est à régler avec vous-même, avec votre interprétation. Que fait le disciple face à la vie? Il ne cherche pas à rire, il ne cherche pas à pleurer non plus. Il prend ce qui vient et il essaye d'alchimiser. Il se dit, voyons, aujourd'hui j'ai vu des amis, je les aime, nous avons passé un bon moment et nous avons beaucoup ri. Et il y a depuis en moi un sentiment de joie. Qu'est-ce que je vais faire avec ce sentiment de joie? Eh bien, pour être juste et pour être vrai, et pour être dans un comportement initiatique, je vais essayer d'utiliser ce sentiment de joie comme on met une bûche dans le foyer pour prolonger le feu. Et je vais méditer sur cette joie. Je vais la prendre comme objet de méditation, comme je prendrais un mantra, comme je prendrais un son, comme je prendrais une image ou une couleur. Et je vais rester dans cette émotion et je vais essayer de la transposer dans quelque chose de spirituel. De façon à ce que par cette énergie que mes amis ont réveillée en moi, je puisse découvrir un état spirituel. Chaque fois que vous sentez en vous un certain état de bonheur, que cela vienne du fait que vous observiez un beau paysage, un beau tableau, que vous écoutiez une belle musique ou que vous soyez en présence d'un être cher, essayez de suspendre cet instant, ne le brûlez pas avec le temps. Essayez de le suspendre et de l'intérioriser. Et ainsi, à force d'intérioriser, de suspendre ces moments, de les donner à l'esprit qui est en vous en fait, et pas simplement de les vivre au niveau du système nerveux et du système émotionnel, si vous les donnez ces moments-là à vivre aussi à votre esprit, il va en faire une nature constante. Je vais ici vous donner un petit truc très simple pour vous montrer pourquoi il est efficace et bon pour vous de suspendre et d'intérioriser ces moments-là. Ne serait-ce qu'en considérant le système cérébral, l'on sait très bien qu'un individu va systématiquement reproduire un certain geste à la rencontre, par exemple, d'une certaine couleur, à l'audition d'un certain son ou à la vision d'un certain ordre des choses. Par exemple, Si je veux déclencher en vous l'appétit, je dois vous parler d'un menu ou je dois vous faire sentir une odeur d'un plat cuisiné. Et automatiquement, en vous, je vais pouvoir créer l'appétit. L'appétit vous met dans un état de bonheur parce que vous attendez la satisfaction de la nourriture. Transposons cela de façon spirituelle. Si je voudrais vous faire connaître cet état de bonheur dans un niveau plus ou moins de l'âme, je devrais donc utiliser l'intermédiaire que représentent les odeurs des plats cuisinés. Et automatiquement, si je vous entraîne à fixer cet état de bonheur qui est la satisfaction ou l'attente de la satisfaction du goût, si je vous entraîne à fixer cet état-là dans un état de méditation, vous allez, chaque fois que vous allez ressentir l'odeur d'un plat, automatiquement vous allez connaître un état de méditation sans avoir même passé par la méditation. C'est l'activité cérébrale qui veut cela, qui permet cela. Pourquoi ? À ce point-là, il faut que j'explique les connexions qui existent entre le cerveau, qui semble donc très concret, très matériel dans son activité, et une certaine communication avec l'âme. Quand je parle de communication avec l'âme, il faut donc soupçonner qu'à un certain moment de son activité, le cerveau n'existe plus en tant qu'élément mental, mais en tant que passage de l'âme, passage d'un certain état. Le cerveau va être là donc pour objectiver cet état. Donc il n'y a pas que votre âme dans son ciel, dans sa dimension, qui va être en contemplation dans un certain état, mais il y aura aussi vous, sur votre plan physique et avec tout votre corps, qui grâce à l'objectivation que permet le système cérébral, va pouvoir vivre la plénitude jusqu'à l'intérieur de votre corps physique. Et donc, chaque cellule de votre corps physique va aussi connaître cet état de plénitude. Du haut jusqu'en bas, tout sera inondé de plénitude. Le cerveau permet cette connexion. Le cerveau a deux faces. Une face mentale, une phase qui parle donc, qui analyse, qui mentalise, qui intellectualise, qui est une phase de mémoire et qui est une phase que l'on pourrait appeler la face noire parce que c'est la phase sur laquelle tout vient s'imprimer sans cesse, tout vient buter contre. Et selon l'interprétation qui aura été faite de la chose qui entre comme donnée, eh bien la donnée sera inscrite comme étant négative ou positive, comme devant déterminer un complexe, une peur, une supériorité, une infériorité, chaque fois que l'individu va se retrouver dans le même genre de situation ou face à un certain type d'individu. Et il y a une face que l'on pourrait appeler la face blanche et qui est tournée à l'inverse, vers le haut, en direction de l'âme, et qui est une phase beaucoup plus humide, qui est une phase plus intuitive, qui est une phase qui est exactement en fait comme une multitude d'antennes prêtes à capter les éléments de l'âme et à les renvoyer. Où est donc le travail à faire ? Le travail à faire, c'est de renverser ces deux faces, de façon à ce que la face noire se retrouve en haut vis-à-vis de l'âme et que la face blanche se retrouve en bas vis-à-vis de l'être que vous êtes dans votre entier, mais surtout sur le plan physique. Ce qui fait que la face noire va permettre d'objectiver les états de l'âme qui ont été déclenchés et la face blanche qui, elle, va être en communication avec toute votre partie physique et votre partie vraiment mentale et intellectuelle, cette face-là va transporter tous les éléments de l'âme, l'état de l'âme qui est objectivé à ce moment-là. Il faut donc pouvoir pivoter. Et c'est ce pivot qui est extrêmement difficile à faire. On croit qu'il s'agit de monter les vibrations, d'aller dans un autre chakra, de monter les degrés de ceci, les degrés de cela. C'est certain, il faut quelque part tout le temps, pour faire quelque chose, monter les vibrations. Dire cela n'est pas tout à fait faux. Mais ce n'est pas tout à fait juste non plus. Il faut pouvoir pivoter la face. Et c'est d'ailleurs à cause de cela que le cerveau lui-même est partagé en deux lobes. Pourquoi est-ce que le cerveau physiquement serait partagé en deux lobes si ce n'était pas à cause de ces deux faces de la fonction du cerveau? Pour vous faire comprendre pourquoi la face noire doit se trouver en contact avec l'âme et la face blanche en contact avec ce qui est plus matériel de l'être, je vais utiliser un symbole qui nous vient de Chine et qui est le symbole du noir et du blanc entrelacés dans une vague que l'on appelle le symbole des complémentaires. Jusque-là, tout le monde peut comprendre. Mais pour faire une comparaison avec ce que je viens de dire et faire comprendre pourquoi la face noire du cerveau, la face donc qui reçoit les impressions, qui collecte, qui est la mémoire, doit être en contact avec l'âme pour être le canal, remarquez que dans ce symbole chinois, vous trouverez à l'intérieur de la vague noire un point blanc et à l'intérieur de la vague blanche, un point noir. Les sages qui ont créé ce symbole connaissaient bien le jeu donc de ces énergies qui doivent s'inverser pour pouvoir donner toutes les richesses de la partie inverse qu'ils rencontrent. Quand vous prenez par exemple un individu dont la phase humide du cerveau, la phase donc plus ou moins intuitive du cerveau, a commencé à se retourner vers l'âme, mais que cela n'est pas tout à fait défini et que donc le noir lui-même n'est pas encore dans sa position correcte, vous allez trouver quelqu'un qui n'est pas encore intuitif et qui est débordant d'imaginaire. Et à ce moment-là, l'individu va plus ou moins être jugé comme ayant le défaut d'être imaginaire, d'avoir trop d'imaginaire, d'être sans cesse dans les fantaisies, les choses fantasques. Petit à petit, lorsque les deux phases prennent leur place correcte, et ceci se passe au fur et à mesure de l'évolution, l'individu quitte le territoire de l'imaginaire et entre de plus en plus dans l'intuition. La capacité à être de façon correcte, de façon équilibrée, un être imaginaire, cette capacité-là est le signe que l'individu n'est pas loin de l'intuition. Car c'est exactement le même couloir, c'est exactement la même vibration, mais ce n'est pas dans la même ouverture que cet état peut devenir une intuition. Si donc vous sentez en vous la grande capacité d'être imaginaire, félicitez-vous, encouragez-vous, travaillez à subtiliser vos vibrations, méditez, essayez de corriger vos défauts, les énergies donc qui sont plus grossières en vous, car le défaut ce n'est que cela. C'est simplement une énergie qui est vécue encore de façon trop grossière et pas de façon suffisamment élevée. Corrigez donc ces distorsions vibratoires, ce qui vous fera corriger vos défauts, et automatiquement votre imaginaire va s'élargir, exploser et devenir l'intuition, la pure intuition. Un être ne peut pas être intuitif s'il n'a pas été d'abord un être d'imagination. C'est pour cela que chez les enfants, vous pouvez remarquer la grande cohabitation qu'il y a entre l'imaginaire et l'intuition. Il n'y a pas de plus grande capacité à imaginer que dans le cerveau d'un enfant. Et il y a aussi, et en même temps, chez l'enfant, une grande capacité à être intuitif. Un enfant ressent tout de suite les grandes personnes. Il sait tout de suite si une personne est bonne ou mauvaise. Il a un certain pressentiment des choses. Il n'aime pas certains lieux parce qu'il sent si le lieu est bon ou pas. L'enfant aime être dehors, dans la nature. Regardez comment vit un enfant. Il sait ce qui est bon. Et c'est grâce à cette humidité, à ce miroir qu'est l'imaginaire, que son intuition peut aussi habiter. Et parfois, son intuition est tellement aiguë qu'il en arrive à développer une forme de médiumnité, ou de voyance, ou de clairvoyance, ou de clairaudience. Puis petit à petit, en grandissant, son mental concret se développe, car c'est ce qui doit avoir lieu, et c'est aussi ce que la société attend de lui, c'est l'éducation que les parents donnent, l'école aussi. Donc petit à petit, son mental concret se développe, cela tue son imaginaire, et cela étouffe aussi l'intuition ou le pouvoir dont il était capable. Est-ce qu'il faut regretter que l'école et l'éducation commettent un tel crime dans l'enfance? Non, il ne faut pas regretter. Il ne faut pas se dire, eh bien c'est dommage que l'éducation, que la construction du concret dans le cerveau, du sens concret dans l'activité cérébrale, amène l'individu à perdre son intuition, à perdre son imaginaire et à perdre son pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le regretter? Il ne faut pas le regretter tout simplement parce que, à ce stade-là, le pouvoir est vécu par l'enfant comme quelque chose de totalement incontrôlé et incontrôlable. Quelque chose qui n'est donc pas un épanouissement, mais qui est un état de choses que l'on vit, comme cela, comme l'on respire, ou comme l'on mange, ou comme l'on boit. L'important dans la spiritualité, c'est de maîtriser les choses, de contrôler les feux. Même si pendant quelque temps, il faut les avoir perdus un peu ou beaucoup ou complètement. Il vaut mieux les perdre et travailler à leur reconstruction parce que lorsque l'homme les retrouvera, il détiendra véritablement un pouvoir constructeur. Donc, il ne faut pas regretter que les enfants perdent leur pouvoir ou perdent leur intuition. C'est au contraire une bonne chose, c'est un développement naturel. Petit à petit, leur sens concret va se développer, mais petit à petit aussi, leur grandeur d'homme ou de femme, leur sens initiatique, leur jugement, leur discernement. Et toutes ces choses vont pouvoir reconstruire l'intuition, le pouvoir qui ont été perdus. Et à ce moment-là, le pouvoir va pouvoir être exercé véritablement, sous contrôle, et pour construire quelque chose. Revenons à ce chemin et à cette intégration. Pour comprendre comment, dans les divers stades de l'évolution, un homme doit contempler son état et comprendre son état, pour comprendre comment donc un individu peut se juger, il faut en faire référence à certaines sciences. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre votre vie spirituelle et votre vie jugée profane, bien que l'une et l'autre soient une seule et même vie. Vous ne pouvez pas vous juger vous-même, vous ne pouvez pas faire une sorte de point dans votre vie, ni savoir où vous en êtes dans votre vie, savoir ce que vous devez obtenir, ou les points sur lesquels vous devez faire des efforts, si vous n'avez pas un minimum d'éléments de connaissances ésotériques. Vous pouvez au jour le jour, c'est certain, travailler sur vous-même. Mais alors il vous faut être sans cesse en observation de vous-même. Et la plupart des gens ne sont pas sans cesse en observation à propos d'eux-mêmes. Il y a des moments où ils s'observent, où ils se jugent. Mais le plus souvent, c'est lorsqu'il y a une réaction de la part de la personne qui est en face. Ou lorsqu'il y a un bouleversement de situation. Mais constamment, là, ici, maintenant, par exemple, vous n'êtes pas en observation de vous-même. Quand vous allez marcher dans la rue, au milieu de tous les autres, que vous allez regarder les voitures passer, que vous allez regarder les cours d'eau, vous n'allez pas être en observation de vous-même. Donc, pour parer à cet inconvénient, à ce manque de conscience, ce qu'il faut faire, c'est connaître un minimum de la constitution occulte de l'homme pour pouvoir vous concevoir en tant qu'énergie, en tant que réseau vibratoire qui va de l'expression la plus grossière, parce que tomber très dur dans la matière, à l'expression la plus subtile lorsque vous aurez abouti à une forme de divinité. Et il faut à chaque mouvement de ces énergies, et ce mouvement des énergies, c'est ce que l'on va appeler votre caractère, votre personnalité. Et au fur et à mesure du mouvement de ces énergies, eh bien, il faut observer, regarder si ce mouvement est en harmonie avec l'alchimie ou s'il est à l'encontre de l'alchimie, si au contraire, s'il vous matérialise davantage, chose que vous avez déjà suffisamment faite. C'est pourquoi il faut sortir de la matière. Quand par exemple un individu éprouve très profondément une grande colère, une colère noire, qui lui attaque même le système nerveux, qui l'ébranle jusqu'au profond de ses racines, eh bien il faut savoir que le mouvement de cette énergie vous matérialise encore plus. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir un être humain, vous vous rapprochez davantage de l'état, par exemple, du roc ou du caillou. Vous cristallisez, vous appesantissez, vous matérialisez. Si donc, au contraire, vous voulez de plus en plus développer des énergies qui vous amènent vers la divinité, en tout cas vers la libération spirituelle, il faut apprendre à libérer aussi ces énergies et à ne pas les alourdir avec des états trop grossiers, trop près de la matière. Ce qui veut dire que lorsque vous allez vivre une colère, il faudra dans un premier temps la vivre dans un niveau superficiel. Ne pas la faire descendre jusqu'à l'endroit du système nerveux. Dans ce cas de figure, vous allez pouvoir extérioriser de nombreuses colères ou hausser souvent la voix pour faire régner l'ordre ou pour vous justifier ou pour imposer quelque chose qui se justifie sans pour autant vous-même vous trouver dans un état de colère. Ce qui fait que vous allez jouer avec le ton de la voix, jouer avec les énergies et non pas être victime d'une énergie trop cristallisée. Parce que de la même façon que j'ai parlé de la colère et du pessimisme, il ne faudrait pas que dès demain, vous n'osiez plus dire un mot. Et que dès demain, vous n'osiez plus hausser la voix pour vous faire valoir ou pour vous faire obéir ou pour maintenir un ordre. Être divin, cela n'est pas être platonique. Être divin, c'est contrôler les énergies qui sont en soi. Donc, même si vous criez, et même si vous criez très fort, dans la mesure où profondément en vous-même, la colère n'est pas installée, mais que vous utilisez l'énergie de la forte voix pour tenir un ordre ou pour revendiquer votre liberté, ce geste-là, à ce moment-là, n'est pas reprochable. Il n'est pas contre la divinité, puisque vous maîtrisez le feu et que vous l'attisez vous-même pendant le contrôle. Tandis que si quelqu'un vient, vous agresse, et que vous éprouvez la colère jusque dans votre système nerveux, et que cela vous ébranle, alors là, oui, il vous faut corriger quelque chose. Et ainsi de suite avec toutes les expressions, toutes les émotions. Aucune n'est mauvaise. Une émotion, une expression ne devient mauvaise que lorsqu'elle s'imbrique, s'applique au système nerveux. Si par exemple l'émotion de la colère vient s'appliquer contre votre système nerveux et entre dans votre système nerveux, comme l'âme rayonne par toutes sortes de moyens et toutes sortes de systèmes jusque dans le corps, automatiquement votre âme va se trouver emprisonnée dans une matière encore plus dure, cette matière qu'est la colère. Si donc on l'emprisonne, si donc on l'appesantit, il n'y a aucune chance pour vous de découvrir un quart d'heure après, pendant la méditation, un état de béatitude. C'est impossible. Parce que, à plusieurs reprises, pendant la journée, vous aurez cristallisé l'énergie de la conscience dans des états trop bas vibratoirement. Que ce soit à cause de la nervosité, de la colère, de l'impatience, de la jalousie, de l'orgueil, de l'égoïsme ou quoi que ce soit d'autre. Faites vous-même la liste. Il n'est donc pas étonnant qu'au moment de la méditation, vous sentiez qu'il n'y a pas de débouché, pas d'avancement, qu'il n'y a qu'une forme de relaxation. Alors l'individu qui ne comprend rien à l'alchimie de la vie et à l'initiatique